quart d'heure du sujet des jardins suspendus des bassins à flots. Bienvenue. En fait, les jardins suspendus des bassins à flots, je vais juste vous en dire quelques mots avant de passer la parole aux intervenants. C'est un élément qui est dans le projet urbain depuis le tout début du projet urbain. Donc c'est vraiment un élément fondateur. L'agence Nicolas Michelin vous l'expliquera tout à l'heure. Mais pour autant, c'est un élément qui est très méconnu. Et aujourd'hui, il est réalisé, il a été pris en compte dans toutes les opérations. Nous avons visité les réalisations avec l'atelier des bassins. Et c'est un élément que nous avons souhaité mettre en avant pour plusieurs raisons. D'une part parce que y a souvent une impression qui se dégage sur ce quartier aujourd'hui à son stade d'avancement qui est qu'il n'y a pas de végétation. Or, c'est faux et nous allons le montrer. On a également décidé de mettre en avant cet élément qui joue un rôle important dans la qualité de vie dans le quartier des bassins à flots, dans la qualité paysagère, qui joue un rôle dans la lutte contre les îlots de chaleur, dans la lutte contre l'imperméabilisation, donc qui est vraiment un élément fort du projet urbain auquel tout le monde s'est plié. Donc c'est ce qu'on va vous montrer à travers différents exemples. Et pourquoi est-ce qu'on a organisé un concours dans le cadre d'Agora ? C'est qu'on a estimé que cet élément méritait d'être mis en avant, qu'il était également mérité d'être mis en avant les opérateurs immobiliers qui avaient joué le jeu, donc de se plier à cette règle qui leur a été imposée dans le projet. Également mettre en avant les paysagistes qui ont réalisé les projets paysagers et mettre en avant aussi les habitants et les copropriétés qui jouent le jeu ensuite de la gestion de ces jardins dans le temps, puisque bien évidemment, le meilleur projet peut avoir été mis en œuvre dès le départ. Si derrière les habitants, la copropriété ne se l'approprie pas, on n'aura pas de pérennité dans le temps. Or, encore une fois, la lutte contre l'imperméabilisation ou contre les îlots de chaleur sont vraiment des enjeux de long terme. Donc, on a décidé de lancer un concours dans le cadre d'Agora cette année pour valoriser les projets. Les candidats vont venir tout à l'heure, l'un après l'autre, présenter les opérations candidates. Dans un premier temps, c'est l'agence Nicolas Michelin et Associés, représentée par Camille Vallée, qui va vous présenter en quoi consiste ce principe des jardins suspendus dans le projet urbain des bassins à flots.
Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui. Alors j'aimerais, avant la présentation des belles réalisations que nous allons voir ensuite, j'aimerais revenir un petit peu sur les principes urbains qui ont été à l'origine en fait, de ces jardins suspendus. Puisque derrière en fait, les jardins suspendus, on a la question de l'intégration des parcs de stationnement à l'échelle de l'îlot. Alors la réponse qui est souvent apportée, et contre laquelle nous nous positionnons à l'ANMA, c'est celle des parkings enterrés. En fait, nous, ce que nous préconisons, c'est la réalisation de parkings intégrés en rez-de-chaussée. Donc ça ne signifie pas de faire des parkings en plein air, des parkings de surface qui seraient à la vue depuis les espaces publics. Non, c'est vraiment des parkings qui sont intégrés dans le bâti et construits en même temps que le lot dès les prémices du projet. En fait, ces parkings ils présentent plusieurs avantages. Déjà, ils permettent de régler les questions d'inondabilité des terrains, de PPRI. Ils permettent aussi de faciliter la gestion de la pollution des sols, qu'on a très souvent dans les sites industriels ou portuaires comme les bassins à flots. Et ils permettent aussi d'anticiper la mutabilité du bâti, puisque si on se place à terme avec l'évolution des habitudes en termes de mobilité, on s'oriente petit à petit vers une diminution des besoins de parcs de stationnement. Et donc se posera la question de la reconversion de ces grands espaces à l'échelle de l'îlot. Donc dans le cas d'un parking enterré, on sera un petit peu bloqué. On peut imaginer des caves, des stockages, mais ça reste très limité. Alors que dans le cas d'un parking intégré, c'est ce qui est représenté sur ces schémas, en fait, on bénéficiera d'apports de lumière et d'accès direct depuis l'espace public, ce qui permettra de tout envisager, des surfaces commerciales, d'activités, de logements, etc. Donc dès lors qu'on intègre un parking en rez-de-chaussée, ça génère nécessairement des formes urbaines assez particulières, puisqu'on peut avoir une constructibilité jusqu'à 100% de la parcelle. Donc ça ne peut pas être fait dans n'importe quelles conditions. Il y a un certain nombre de règles de manière à garantir la qualité de cette intégration. Et la première, c'est le soin qu'on apporte à l'interface entre le lot et les espaces publics. C'est ce qu'on donne à voir en rez-de-chaussée du bâtiment. Donc à cela, on répond qu'on préconise en fait de placer le parking en retrait par rapport aux limites séparatives et de venir l'habiller par des locaux qu'on dit animés, habités. Donc l'idéal étant évidemment les commerces ou les locaux d'activité, à condition que l'espace public s'y prête. Mais ça peut être aussi des logements en simplex, en duplex, de façon à venir habiter deux niveaux de parc de stationnement. Et bien entendu, les espaces de circulation et les locaux communs. Le second point de vigilance, c'est ce qui concerne l'imperméabilisation des sols, puisqu'on ne peut pas construire 100% d'une parcelle sans dérégler l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Et c'est là où le jardin suspendu trouve sa première raison d'être, c'est-à-dire qu'avec une épaisseur de terre suffisante, avec un certain nombre d'essences plantées, on parvient à infiltrer une partie de ces eaux pluviales. Et le troisième point de vigilance, c'est en fait de ne pas construire des no man's land, des jardins qui n'ont aucune raison d'être dans les îlots. C'est vraiment l'idée de développer des usages, des vrais lieux de vie qui sont adaptés à chaque îlot, qui sont au cas par cas. Donc là, tout est envisageable. On a très souvent des jardins communs qui sont utilisés par l'ensemble de la copropriété, mais on peut aussi avoir certains jardins individuels affiliés à certains logements, et on peut imaginer aussi des jardins d'entreprise, des jardins d'équipement, on a même vu des potagers, etc. Je le disais, à l'ANMAS, c'est un thème qui nous tient spécialement à cœur. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de réalisations qui ne sont pas au bassin à flot, mais pour montrer que c'est un modèle un peu reconductible. Donc ici, c'est l'îlot Armagnac, dans le quartier Saint-Jean-Belsier, où on a une programmation mixte, logement, bureau, commerce, équipement. Et l'intégration de ces parcs de stationnement ont donné lieu à l'aménagement de jardins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces jardins suspendus participent au parcours du piéton. On accède à certains espaces en passant par ces dalles aménagées. Un autre exemple, ici à Toulouse, avec la reconversion du bâtiment du Tripostel. Ici, on avait énormément de stationnements. Il s'étage sur trois niveaux. Et ça donne lieu à l'aménagement de jardins en gradins, qui fonctionnent très bien et qui sont donnés à l'usage des logements. Donc, pour revenir au bassin à flot, en fait, les contraintes du site en termes d'inondation, de pollution, ont très vite imposé le modèle des parkings intégrés en rez-de-chaussée et des jardins suspendus. Et aujourd'hui, la qualité de ces aménagements fait que les jardins suspendus sont devenus une marque du paysage du projet urbain. Donc là, on les a repérés sur une carte, ceux qui sont déjà réalisés et ceux qui sont aussi à venir. C'est aussi quelque chose qui a été inclus réglementairement dans le PLU, c'est-à-dire qu'on n'a pas une surface maximale de constructibilité autorisée, mais on a une surface minimale d'espace planté obligatoire. Bon, je passe rapidement sur les exemples puisqu'on va avoir des belles réalisations ensuite. Dernier point qui était très important à notre sens, c'était la façon dont ces jardins suspendus sont complétés par les aménagements de l'espace public au sol. C'est-à-dire que les jardins suspendus viennent apporter une trame végétale étagée en complément de ce qui se passe dans les centres. Les centres, pour rappel, ce sont ces grands corridors de 6 mètres de large qui redécoupent les îlots perpendiculairement au bassin et qui permettent en fait de venir joindre les quartiers limitrophes, donc de Chartron au sud et de Bacalan au nord, au cœur du quartier, à la plaque portuaire des bassins à flot. Et ces centres, elles sont uniquement dédiées aux mobilités douces. Donc vous en avez un certain nombre dans le quartier qui sont déjà aménagés, et on voit cette végétation, donc en partie basse, dans l'espace public. Et donc ce sur quoi on a voulu travailler et ce à quoi on a été très vigilant lorsqu'on a visité les réalisations de ce concours, c'était de voir comment les jardins suspendus participaient en fait à l'impression végétale depuis l'espace public. Donc pour terminer, je vous ai mis un certain nombre d'exemples où en fait on a une perception étagée du végétal. On se trouve soit sur un jardin suspendu et on voit l'espace public végétalisé, soit on se trouve dans une rue et en fait on voit qu'il se passe quelque chose à l'îlot, en hauteur. Là, on voit même un arbre dans le parking. Voilà, là, c'est rue Lucien Faure où on aura à terme tous ces grands îlots avec des étages, des jardins suspendus en R+1 venant animer la rue. on va passer à la présentation des projets.
Merci beaucoup. Donc, c'est Camille Vallée de l'agence Nicolas Michelin et Associés qui exerce la mission d'architecte urbaniste coordonnateur pour tout le projet des bassins à flot. Je ne l'avais pas dit avant que tu parles. Cette dernière image, voilà, c'est un des critères qu'on a apprécié effectivement. On demande à tous les jardins d'être un minimum perceptible depuis l'espace public. Donc quand vous vous promènerez au bassin à flot, ouvrez l'œil, levez les yeux. Est-ce que vous pouvez voir un arbre qui dépasse par-ci par-là et qui vous signale ces jardins suspendus? On va donc passer à la présentation des 7 projets candidats dans le cadre du concours. Donc, je vais les appeler un par un. Ils ne vont pas parler très très longtemps, mais c'est important que tous puissent mettre en valeur leur projet. Juste un mot pour vous dire que les résultats n'ont pas encore été proclamés. Ils seront proclamés ce samedi, ici même, à 20h30. Donc, le suspense reste entier. On va lancer le deuxième diaporama. Alors, ce qu'on avait demandé aux candidats, c'est de nous envoyer un panneau, chacun, sur lequel ils devaient nous mettre évidemment des photos du jardin. Donc, on a fait le concours au printemps. Ils devaient également nous expliquer quels étaient les principes de composition paysagère et comment le jardin ensuite était entretenu, devait vivre. Ça aussi, c'est des critères qui étaient importants. Juste un mot également sur le jury qui s'est déplacé donc, pour faire la visite des jardins que vous allez voir. Donc, c'était des membres de l'atelier des bassins, donc l'agence Nicolas Michelin et Associés, des gens de Bordeaux Métropole et de la mairie de quartier également, de Bordeaux Maritime. Sachant que pour Bordeaux Métropole, on avait la direction des espaces verts avec nous qui pouvait apporter un œil un peu expert. C'est vrai qu'ils n'observaient pas forcément la même chose que nous et qu'ils ont apporté une vraie valeur ajoutée dans l'analyse. Donc le premier projet, c'est Kaufmann et Broad que je vais appeler. Ou pas. D'accord. C'était la résidence Les Muses sur l'îlot B6. Le représentant de Kaufmann, la paysagiste peut évidemment en parler. Bien sûr. Sabine Aristoy.
Je ne sais pas si vous avez. Ah oui. Voilà. Bien, bonjour. Donc écoutez, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité d'une autre parcelle, c'est un jardin suspendu qui vient en limite d'une opération et qui s'inscrit comme un belvédère pour donner à voir un petit peu le paysage environnant. Alors c'était un projet assez contraint quand même, je ne vous le cache pas. On avait des difficultés quand même à mettre en place la végétation. Ce qu'on a voulu, c'est densifier au maximum cet îlot et de venir vraiment l'inscrire dans un plan. Alors peut-être qu'il y a une image globale du voilà. Donc la partie qui est colorée correspond donc à l'îlot en question et on voit qu'il s'inscrit dans la continuité d'un autre îlot. Donc ça avait été une demande dans la programmation, c'était de prévoir un grand axe, une espèce d'épine dorsale qui déboucherait à la fois sur le belvédère de l'îlot B6 et un autre belvédère qu'on ne voit pas qui est à l'autre extrémité de l'îlot B9. Donc le principe de végétalisation, c'est vraiment d'avoir la même typologie végétale de part et d'autre sur les deux îlots. Donc une végétation dense, c'était un peu le parti pris, avec une végétation plutôt rustique, puisqu'on a vraiment des contraintes techniques de mise en œuvre qui sont liées à la faible épaisseur des terres végétales, à la gestion de ces espaces aussi qui est assez contraint, et planter densément, donc avec des arbustes tout simplement et des arbrisseaux, des petits arbres, puisque également on ne peut pas planter des arbres de très grande taille. Mais voilà, donc avec une ouverture directe sur les belvédères. En quelques mots, je ne sais pas si...
Donc ça, c'est les images de la réalisation. Et derrière, en termes de gestion ?
Alors la gestion, elle est...
vous avez choisi les espèces.
Je m'adresse à des confrères aussi, mais bon, c'est souvent lié à la copropriété, donc au bon vouloir de la copropriété. Donc si c'est bien géré, tant mieux. C'est-à-dire que la contrainte première, c'est l'arrosage, c'est-à-dire d'assurer la pérennité de ces végétaux. Donc il y a un désherbage régulier à faire sur ces plates-bandes plantées. Et puis, bon, mais la végétation s'est mise assez rapidement en place. On est plutôt sur des sols arbustifs, enfin des choses assez costauds pour les avoir testés plusieurs fois sur des jardins suspendus. Donc, il faut penser donc, à la nature des sols. C'est un sol qui va chauffer très rapidement, qui a une mauvaise circulation hydrique puisque l'eau s'écoule très rapidement. On est plutôt sur des sols sableux. Enfin, bon, donc, il faut quand même arroser. Il faut penser à arroser. Donc, ça, c'est un point très important. Et ça se met en place. Voilà. Et puis l'usage de ces espaces, des tentes, puisque là, c'est une résidence pour étudiants. Donc on a prévu des bancs, enfin des espaces de rencontre qui permettent aux gens de venir. Donc c'est un usage quand même limité. L'objectif étant de planter densément et pas forcément de rendre ces espaces accessibles.
Alors, on voit quelqu'un quand même qui fait sa méditation. Vous n'avez pas sur la photo, vous n'avez pas forcément prévu du mobilier spécifique, mais c'est du détournement.
Non, là, c'est
coup.
Du détournement. Là, c'est l'aménagement des VH, des grilles de ventilation qui sont détournées en banquette, puisqu'il y en avait un certain nombre sur l'opération, voilà, sur la dalle.
Merci beaucoup. L'opération suivante, alors je n'ai pas dit, on est quai Uberprom sur cette opération qu'on vient de voir. L'opération suivante, c'est Eiffage Immobilier, la Tifa Mathilde qui nous rejoint. On commence par, alors Eiffage a postulé avec deux opérations pour multiplier ses chances. Donc on a d'abord l'opération Urban Doc qui se situe au 10-20 cours du Pré de Saint-Maur, qui est une opération de logement.
Ouais. Alors, je garde Sabine avec moi pour le prochain dossier. Bon, pour celui-là, je m'improvise paysagiste. Donc c'est l'opération Urban Doc que je vais rapidement vous présenter. On l'a réalisée avec l'agence Amonique et Masson, qui est une agence parisienne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc la résidence Urban Doc, elle est située au nord des bassins à flots. Comme vous pouvez le voir, c'est le bâtiment doré avec les animations de façade, les loggias qui viennent en boîte. Donc c'est une façade assez sobre et qui forme un élément assez majeur du site. Dans l'esprit des bassins à flots, on a réalisé un bâtiment à l'esprit très industriel qui a été traité en un seul élément monolithique, là, comme vous pouvez le voir sur la photo. On a des différences de niveau qui étaient un peu caractéristiques des bassins à flots. Si on peut, on le voit aussi ici, avec une pointe en R+9. Si on peut revenir sur le slider. Merci. C'est un programme essentiellement d'habitation. Donc on a 56 logements. Dans lequel on a traduit un peu les attentes de la ville qui ont été présentées par l'agence ANMA. Donc on a un parking en rez-de-chaussée qu'on a couvert d'une dalle paysagère, donc pour créer un cœur d'îlot, pour améliorer la qualité de vie des habitants de la résidence, tout simplement, et d'aérer le cœur d'îlot. Donc on le voit un peu sur la photo que vous pouvez apercevoir à gauche. Donc là, c'est le plan masse qu'on retrouve avec donc l'îlot qui est organisé au cœur, autour du cœur d'îlot paysager. Donc avec une dalle en R+1 et un jardin qui redescend sur la façade du rez-de-chaussée qui est le long de la future centre publique. Donc c'est un moyen de créer un lien entre l'espace privé du lot et l'espace public dont a parlé ANMA. Voilà ce que je peux vous dire. On a essayé un peu d'organiser des espaces privatifs autour du jardin. Donc on peut le voir un peu sur le plan masse. On a de grandes terrasses qui donnent sur le jardin paysager. La particularité, on l'aperçoit un peu dans l'angle de la photo, c'est qu'on a posé une villa qui était aussi un des points possibles dans le cahier des charges d'ANMA. Une villa qui est posée sur la dalle paysagère et qui sera directement accessible par la future centre piétonne publique. Voilà. Bon, en termes d'entretien, donc c'est un espace qui est ouvert à tous les résidents. On a une collègue qui habite là-bas et en fait qui n'est finalement pas très utilisée. C'est-à-dire que comme cet espace partagé, il est un peu en continuité d'espace privatif, c'est vrai que c'est plus les gens qui ont ces terrasses autour du jardin qui en profitent plutôt que les autres gens de la copropriété. Parce qu'il faut passer par le premier étage, la circulation du premier étage pour accéder au jardin. Et c'est peut-être pas si évident dans l'usage et dans la vie de la résidence. Voilà. Bon, après, l'entretien, comme disait Sabine, c'est l'entretien de la copropriété.
Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, que j'aurais peut-être dû dire en préambule, c'est qu'on a des résidents, enfin, des opérations qui ont candidaté, qui sont à des dates de livraison différentes. Donc vous avez des opérations dont les jardins ont déjà 2 ans de recul, et puis vous avez des opérations qui ont été livrées beaucoup plus récemment, avec des plantations plus récentes. Et donc, bien sûr, le développement des arbres aujourd'hui est assez inégal sur les différents projets, par exemple.
Ben là, les photos, c'est à peu près 1 an, je dirais, après la livraison, quoi.
Merci beaucoup.
Voilà. Ah. Oui, je pense que ce jardin, l'avantage qu'il a, peut-être qu'il n'est pas très investi par les personnes de la copropriété, mais à terme, quand les arbres auront bien grandi, il permet quand même de gérer les vis-à-vis, oui, entre les logements qui sont construits en face et les terrasses individuelles.
Oui, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est une zone très dense où on a tout le bâtiment de Clercienne, qui est une résidence étudiante, je crois, qui en plus a un vis-à-vis énorme sur la résidence, et c'est vrai que ça sera un point important. Et je pense qu'en termes de visibilité, depuis la Sente publique qui sera le long du bâtiment, ça sera aussi, on pourra bien l'apercevoir. C'est un peu tôt, je dirais, pour ce jardin.
Alors, Eiffage a présenté un second projet dans le cadre du concours. Donc c'était important pour nous, on a de la chance dans les réponses, parce que ça nous permet de vous montrer que la règle est la même pour tout le monde. Et ce n'est pas simplement pour les projets de logement. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir vous montrer que c'était la même contrainte pour des projets. Vous avez vu une résidence étudiante tout à l'heure. Là, vous allez voir du tertiaire, une opération tertiaire, avec également ce même principe de jardin suspendu. Donc, on est cette fois au 118-126 quai de Bacalan.
Bon, ben là, on est sur un site exceptionnel, j'avoue, avec un paysage de ripisylve remarquable qui est caractéristique des berges de Garonne. Donc là, c'était juste être dans la continuité de ce paysage. Donc même chose, la programmation imposait à l'architecte un jardin suspendu qui s'ouvrait sur les berges. Le choix de l'architecte a été de donner à voir ce paysage, mais grandement, avec une très, très vaste terrasse. Et le principe était tout simple, c'était être dans la continuité de ce paysage un peu disparate, un peu flou. Donc on a une végétation fluide qui vient s'implanter sur une dalle suspendue. L'organisation spatiale est assez simple, il y avait aussi une programmation aussi de l'acquéreur, qui était d'avoir quelques espèces d'alcôves, d'espaces de rencontres et de détente qui soient vraiment au bord de la terrasse, qui elle-même est dans la continuité de la courbe de la berge. Les espaces centraux plantés occupent largement la terrasse avec une surface dépassant 80%, mais... Donc même chose, une plantation liée aussi aux contraintes de l'implantation d'une végétation sur dalle, à savoir la faible épaisseur de terre végétale, les contraintes de gestion également. Là, on est dans une situation un peu plus ventée que sur certains îlots, donc une attention particulière aussi au choix des essences. Donc là, plutôt jouer sur des implantations de graminées, des espaces plantés qui sont séparés par de petites allées qui permettent la gestion de l'entretien. Mais même chose, le choix, c'était vraiment de densifier au maximum ces dalles. Donc on n'est pas sur des usages collectifs pour tous, avec des enfants, des exploitations de cultures potagères. Les deux opérations que vous venez de voir, on est vraiment sur un choix de densité végétale qui soit vraiment en lien avec le paysage environnant. Donc voilà.
Et il y a pourtant un coin potager, on l'a vu lors de
la
visite.
Oui, mais qui n'est pas de manfé. Mais au final, voilà, c'est bien de voir aussi évoluer les espaces. Donc,
Il y a une vraie appropriation, on a pu le voir lors de la visite. Alors, pour le projet suivant, c'est Nexity qui va nous rejoindre, Julien Matard. Donc, on va être sur l'opération Villa Polonia, qui se situe entre la rue Blanqui, la Sandera Doub et la rue de New York. C'est une grande opération. Donc, on va vous laisser nous présenter votre équipe et le projet.
Bonjour, donc je suis accompagné de Jean-Michel Bertrand, qui travaille pour la société Bertrand Espaces Verts et qui a réalisé les espaces verts de l'opération. Alors cette opération, elle est située au fond des bassins à flots, donc l'îlot B7, c'est un des derniers îlots. Et elle est constituée de différents îlots traversés par une promenade haute et deux placettes. Donc les placettes que... il faudrait que je puisse montrer. Les placettes que vous pouvez voir à ce niveau-là et là, une promenade qui traverse toute l'opération et qui vient se raccorder ici à la Sande des Radoubes. Donc il y avait vraiment deux espaces sur cette opération. Un espace au niveau du sol, donc qu'on peut voir ici à gauche. Et ensuite, un espace pour tous les îlots qui sont surélevés avec un parking intégré et donc pour lesquels on a envoyé des photos dans le cadre du concours des jardins suspendus.
Très bien. On n'a pas de photos de... Voilà, donc la photo qui est là. Donc évidemment, comme pour tout le monde, un espace contraint avec des caractéristiques particulières, l'étroitesse des lieux, les ombres portées, la faiblesse du sol par sa... le fait que ce soit en jardinière et sur dalle, donc un petit peu plus difficile à traiter. Donc le parti pris a été pour moi de traiter deux aspects de la question. L'accueil des habitants, parce que ce sont des entrées d'appartements, donc les gens montent et vont dans leur appartement. Donc j'ai voulu que chaque fois qu'ils passent dans ces lieux, ils soient dans un environnement extrêmement fleuri, c'est-à-dire qu'ils voient des fleurs le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'hortensia, qui est une plante qui pousse à l'ombre et qui est fleurie, on va dire, d'avril jusqu'au mois de septembre, octobre, où même les plantes défleuries ont un intérêt ornemental. Pour l'hiver, on a choisi quelques camélias pour ponctuer un petit peu l'opération et pour traiter aussi les vis-à-vis, parce que comme les façades sont assez proches l'une de l'autre, on essaye que les gens ne se voient pas d'un appartement à l'autre. Donc on utilise le camélia pour gérer ce problème, ainsi que quelques petits arbres à moyen développement de type amélanchier. Néanmoins, pour d'autres problématiques, on a aussi des fenêtres qui sont au niveau de la rue. Et pour cela, si on avait mis des hortensias devant, on aurait bouché complètement la lumière. Donc pour ces zones-là, on a choisi des lierres tapissants, de manière à créer un contraste entre le très fleuri et le très, très vert, on va dire, mais en même temps chaud et accueillant, on va dire. Voilà. Nous voilà un petit peu pour le choix des espèces. En ce qui concerne l'entretien et la gestion de ce parc dans le futur, le fait de ne pas avoir utilisé de pelouse, pour nous, était assez important. Pourquoi ? Parce que pour de la pelouse, il faut des tondeuses. S'il faut des tondeuses, il fait du bruit. Et dans un espace aussi contraint et le moindre bruit, même des enfants qui jouent, ça doit faire quand même du bruit pour les gens qui sont un petit peu au-dessus. Donc on a utilisé des plantes qui ne nécessitent que très très peu d'entretien, en utilisant des mulches au sol pour que les désherbages soient assez simples et surtout pas d'outils à moteur pour pouvoir les entretenir. Voilà, c'est complété bien sûr par du goutte à goutte parce que là, comme il n'y a pas beaucoup de terre, même s'il y a des épaisseurs quand même suffisantes pour que ça vive, on est obligé de le compléter par des goutte à goutte. Et le top aurait été des gouttes à gouttes gérées par Internet de manière à intégrer aussi les précipitations, de manière à être aussi économe en eau et ne pas arroser quand ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'entretien ? Voilà, je crois que c'est tout.
Juste peut-être une précision si on revient avant la première diapositive sur le plan de masse. Donc, on a parlé tout à l'heure d'avancement. Il y a différents îlots sur le projet. Et pour l'instant, en termes d'espace paysager, on a fini le premier qui est là. Et au fur et à mesure, on va développer toute l'opération. Donc au fur et à mesure, là, c'est un îlot assez contraint en termes de densité. Et donc, il y a eu un parti pris qui était de prendre une espèce. Et au fur et à mesure, on va retrouver des corps d'îlots beaucoup plus grands. On va venir mettre aussi des espèces différentes.
Donc c'est vrai que sur tout ce qu'on a visité, c'est l'îlot qui était de loin le plus fleuri et le plus coloré. Et c'est appréciable aussi, comme quoi il y a de nombreuses façons différentes d'interpréter la consigne de départ. Merci à vous. Ensuite, on va recevoir Bouygues Immobilier, qui a choisi de nous présenter l'opération Aelos, qui se situe Sande des Moritiers et quai du rue Blanqui, rue Gironde. Voilà. Bonjour, donc Mélanie Roux et Freddy Charrier, le paysagiste.
Donc bonjour, Mélanie Roux, Bouygues Immobilier. Je suis responsable de projet, notamment donc du projet Aelos, qui se situe donc rue Gironde, juste à côté de la grue, comme on peut le voir sur la photo. C'est un projet qui est composé de 63 logements et qui s'articule donc autour d'un jardin qui est en R+1, donc au-dessus des places de parking, comme l'expliquait l'ANMA. On s'est associé avec l'agence Let's Grow, donc avec Freddy Charlier qui est à mes côtés. Voilà. Puisqu'il y avait vraiment de leur part une réelle recherche de compréhension du site et des enjeux de reconversion du territoire. Et donc, ce qui leur permet vraiment de raconter une histoire sur et ce qui leur permet de raconter une histoire. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci.
Bonjour. Donc, l'îlot Aléo, c'est le troisième îlot sur un macrolot que j'ai eu la chance sur lequel j'ai eu la chance de pouvoir travailler, que m'a confié Bouygues. Donc, la démarche, je l'ai instaurée sur un autre îlot qui s'appelle l'îlot, alors macrolot Beaumartin et îlot C1. Avec Cécile Moga. Ensuite, il y avait deux autres architectes qui étaient Elisabeth de Porzamparc et Christian de Porzamparc, et un dernier îlot avec Search, une agence parisienne. Donc la démarche a tout le temps été la même, ça a été de se dire où est-ce que j'interviens. Donc les bassins à flot, vestiges industriels et portuaires, pour lesquels l'atelier Michelin avait souhaité avoir des espaces publics qui évoquaient finalement cette reconquête d'un milieu délaissé. Et le parti pris urbain qui était de dire on va faire des extrusions de bâtiments dans lesquels le socle du rez-de-chaussée va être occupé par des parkings et on va habiter au-dessus de cette nappe de parking posait la question de l'identité des jardins qu'on a retrouvés aux abords immédiats de ces bâtiments qui étaient donc légèrement surélevés par rapport à l'espace public. Donc c'est sur ce volet-là que moi je suis intervenu. Quelle image j'ai voulu donner à ces jardins ? Donc, je n'ai pas voulu réinventer une nouvelle histoire. Pour moi, il s'agit de réinterpréter un petit peu l'histoire du lieu, la mémoire du lieu. Et pour ça, l'idée d'utiliser une palette de reconquête végétale, de travailler avec un paysage très minéral, avec une fissure verte, ça a été la démarche que j'ai instaurée sur le premier îlot. Donc, on a décidé de vous montrer celui-là, qui prolonge un petit peu cette idée-là, l'idée d'un jardin, d'une grande faille qui vient traverser le jardin, qu'on a essayé d'exprimer avec des petits soutènements bois qui donnent un jardin légèrement creux et un environnement un peu plus de graminées en périphérie. Et l'idée, c'était vraiment de retracer comme ça une fissure au cœur du jardin qui participe à créer un décor depuis les logements habités, donc du R+1, mais également à reconstituer un décor végétal depuis l'espace public. Donc ce projet qu'avait accepté Bouygues Immobilier, il trouve écho dans la gestion, puisqu'on a la singularité sur ce style-là d'avoir une propriétaire d'un appartement qui, au quotidien, s'adonne à entretenir ce jardin. On a trop souvent la désagréable surprise de voir nos jardins qu'on livre comme une forme de petits bébés qui sont encore complètement immatures et qui nécessitent d'être compris par les gens qui vont l'entretenir. Et souvent, on se retrouve face à des jardins qui sont maltraités. Alors, les végétaux sont mal taillés, les arbres saccagés. Et il est assez difficile de voir le jardin évoluer correctement. Donc je pense qu'une des singularités de ce projet, c'est d'avoir eu la chance d'avoir une propriétaire qui a voulu comprendre ce jardin et surtout qui l'entretient gracieusement. Et voilà, je voulais lui faire un clin d'œil parce que c'est un travail qui est fait quasiment au quotidien. Et pour le coup, on a un projet qui respecte les intentions.
Alors même que ce jardin n'est pas spécialement accessible Exactement. Aux habitants de la résidence. Exactement. Alors ça, c'est un parti pris, c'était un souhait du maître d'ouvrage ou du vous concepteur, comment ça s'est décidé ?
On s'est posé la question longuement, principalement sur l'îlot qui est le plus grand, qui est un îlot qui est partagé entre Bouygues et Aquitanis, si je ne me trompe pas, qui est l'îlot C1, pour lequel on avait l'espace finalement pour créer un espace de vie. Et finalement, cet espace-là, quand on considère bien par rapport aux hauteurs, on s'est dit que ça allait plutôt créer des agréments de voisinage. Donc il fallait mieux donner un paysage à voir plutôt qu'un paysage à pratiquer. Et c'est en ce sens que l'ensemble des jardins sont instaurés dans cette démarche de se dire on donne plutôt à voir un beau jardin qui crée un espace agréable plutôt que d'en créer un espace de conflit. Voilà.
Ça en sachant aussi, c'est une particularité de l'opération.
Et qu'il y a tous les espaces publics existants et à venir qui vont participer à créer des lieux de vie pour les habitants.
C'est ça. Je rappelle, le projet n'est pas fini pour les gens qui s'impatientent. Merci beaucoup. Dernier opérateur, je vais appeler Cogedim, qui a là aussi présenté deux opérations. Bonjour.
Alors pour la première opération avec Vinci Immo, partenaire avec Cogedim, donc 50-50 sur l'opération d'influence.
Alors, on commence par Nouvelle-Rive-Gauche, nous, sur le diaporama.
Voilà. Donc,
voilà. Anna Donaribas, c'est quoi j'ai dit.
Donc, Nouvelle-Rive-Gauche, effectivement, on est seul. Alors, quand je préparais ces slides, c'est vrai que j'avais énormément de belles images à mettre. J'aurais mis la piscine, j'aurais mis plein de détails des façades. Et finalement, je me suis dit, il faut quand même mettre la photo de nos jardiniers, qui est ni plus ni moins nos voisins. Cette opération a été livrée il y a 3 ans. Donc c'est un jardin qui est parfaitement épanoui et avec une émulation qui s'est créée au sein de cette copropriété qui est vraiment extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nouvelle-Afrique-Gauche, c'est une histoire d'amour qui s'est créée entre Cogelim et cette copropriété qui n'a pas forcément très bien commencé parce que bon, le chantier a été compliqué, qu'on a surmonté les différentes difficultés quand même une à une et on a réussi. Et cette histoire d'amour s'est finie au mariage parce qu'en fait, Cogelim a quitté ses locaux historiques centre-ville pour déménager dans l'immeuble et occuper le premier niveau de la résidence. Donc on est maintenant des voisins. Le jardin, donc, il a été conçu par Alain Triot et puis planté par Yves Desverdé. C'est un jardin qui est aussi très fleuri, peut-être pas aussi fleuri que celui qu'on vient de voir, mais quand même qui est fleuri. Et c'est vrai qu'on devrait planter plus de fleurs. Je pense que nos jardins sont un peu trop verts. Même la copropriété a décidé, elle, de planter des fleurs supplémentaires. Et c'est vrai que c'est très beau. Avec ce cheminement en béton poli, en zigzag, qui est vraiment très beau et qui amène aux différents coins secrets du jardin. Et avec un arrosage, bien sûr, qui est intégré et qui est géré par un voisin en particulier qui s'occupe, lui, de l'arrosage, bien que d'autres s'occupent des plantations, du taillage, etc. etc. Donc voilà pour Nouvelle-Rive-Gauche. Voilà les fleurs.
Merci beaucoup. Et du coup, Vinci Immobilier rejoint Cogedim pour parler du projet Influence où vous êtes en copromotion.
Oui, donc aventure qui s'est commencée il y a peut-être 8 ans. 7 ans. Un OS Travaux qu'on a donné il y a 3 ans. Des premières livraisons fin d'année dernière. La dernière livraison là.
Il se fait en ce moment même. Ouais, livraison effectivement du dernier îlot qui est donc sur les quais. Qui se fait en ce moment. L'opération, très rapidement, après on viendra au jardin, donc une opération quand même de 723 logements, qui était vraiment un gros marqueur, d'où le nom que nous lui avons donné, un gros marqueur, puisqu'évidemment nous sommes au débouché du nouveau pont et de la rue Lucien Faure et des quais. Et concernant le jardin, je te...
Donc en fait, Influence développe 3 cœurs d'îlots parce que on a 2 centres qui divisent Influence en 3 cœurs d'îlots. Aujourd'hui, sur les 3 cœurs d'îlots, il n'y en a qu'un qui est véritablement planté parce qu'on a livré les autres en été, donc c'était pas vraiment le moment, mais peut-être une autre édition des concours.
C'est le jardin le plus récent, on va dire, de tout le concours.
Voilà. Donc c'est pour le coup un jardin essentiellement vert avec beaucoup de plantes couvre-sol et les arbres c'est essentiellement des chênes verts sur 2 niveaux, un premier niveau et un deuxième niveau plutôt R+2 en cascade. Alors on a aussi essayé d'habiller ces ventilations des parkings pour en faire des espèces de bancs que vous voyez sur les images et qui servent vraiment à la copropriété parce que c'est un chemin qui mène vers notre immeuble cascade. Et on a confié, on aime notre îlot, on le trouve beau, mais on l'a trouvé quand même très vert et trop dans la gamme de gris des taupes. Donc on s'est dit il faut un peu de peps dans cet îlot. Et c'est là qu'on a voulu rajouter ces touches d'orange, donc avec nos bancs, etc., mobilier extérieur, et avec ces 3 pommes, des 3 oranges différents, qu'on a confiées à un artiste qui s'appelle Bullenstein, qui est allemand, mais qui fabrique ses pommes en France, et qui nous a amené ces belles pommes d'un mètre 50, 150 kilos chacune, qui ne craignent rien, donc. Et qui ont été une vraie surprise pour la copro, parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à voir ça le jour de la livraison, et qui plaisent vraiment. Voilà. Et pour l'entretien, donc ça c'est la vue depuis le hall, parce que vous pourrez percevoir quand vous baladez rue Lucien Faure et que vous regardez à travers notre hall, vous pourrez percevoir le jardin. Pour l'entretien, en fait, c'est Cogedim Gestion Service qui est le syndic. de la copro et je sais bien que le contrat d'entretien a été souscrit. C'est un contrat d'entretien, il y a 150 logements, donc on ne peut pas imaginer l'émulation qu'on a connue sur Nouvelle-Rive-Gauche avec autant de personnes. C'est peut-être possible un jour, mais pour les vraiment premières années de la résidence, voilà, on a souscrit un contrat d'entretien et c'est un îlot qui est équipé d'arrosage intégré. Voilà.
Merci, c'est vrai que c'est vraiment un îlot qui se distingue par les dimensions de son jardin de cœur d'îlot, ce principe en étage dont vous avez parlé, et donc le fait d'avoir convoqué une œuvre d'art pour animer ce jardin. Donc on verra comment il vivra dans le temps. Merci à tous pour ces présentations. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions, soit pour l'agence Nicolas Michelin et associés, soit pour les opérateurs ou les paysagistes qui ont parlé ? N'hésitez pas. Oui ?
Pour l'entretien des différentes résidences, à chaque fois vous avez parlé des habitants et je voulais savoir si des fois c'était des entreprises d'espace vert ou pas.
Alors, qui veut répondre parmi les opérateurs ?
Nous, pour Nouvelle-Rive-Gauche, non, c'est les copropriétaires. Et pour Influence, c'est une entreprise d'espace vert qui a un contrat d'entretien annuel. Voilà.
Oui, on va dire que le cas général, c'est plutôt un contrat d'entretien à une entreprise d'espace vert et qu'on a plutôt mis en avant... Pardon. On a plutôt mis en avant, là, dans le cadre de ce qu'on vous a présenté, des cas qui sont justement un peu plus extraordinaires, qui sont les cas où les habitants eux-mêmes s'en saisissent et assurent l'entretien. Mais sinon, là, le cas général, enfin, vous me dites si je me trompe, hein, les différents opérateurs qui sont présents, mais l'habitude, c'est quand même un contrat d'entretien à une entreprise extérieure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais tous vous remercier d'avoir assisté à cette présentation et donc vous donner quelques rendez-vous. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, samedi, ici même, à 20h30, la remise des prix. Également à la maison du projet des bassins à flot, Engargé 2, au rez-de-chaussée. Les panneaux qui ont été remis par les candidats sont exposés actuellement, donc n'hésitez pas à aller les voir pour y passer un peu plus de temps et voir un peu plus le détail. Et puis enfin, je vais remercier Raymond Joso, qui a organisé ce concours et s'est occupé de toute cette organisation auprès des différents candidats. Bonne agora à tous.
Je me permets de vous faire quelques lignes sur ce qu'on fait. Et notamment, d'ici leur portière d'ici. Oui, absolument. Hein ? Nous, c'est les hortensias. Oui, alors il y en a un qui est plutôt destiné aux architectes, celui-ci, là. Et celui-là plutôt destiné aux particuliers, c'est des projets un petit peu différents. Non, attendez, une seconde, je regarde si c'est... Ouais, c'est ça, voilà. Celui-là plutôt pour les archis, et celui-là plutôt pour les...
Je vais les mettre dans la bibliothèque de l'agence.
De l'agence, oui, voilà. Regardez, voilà. Vous voyez pourquoi on...
C'était super, quand on y allait,
ouais. Et nous, c'est un petit peu notre plan de fétiche, parce qu'à Londres,